You know, sometimes people say to me, Rose, thank you. Well, it's the first time you ever heard the blues, and you know what I tell them? I tell them the day I was born. You know why? Because I was born a woman. Ah. Oh, we got some noisy females in the house tonight. I do like to hear that high-pitched sound, you know? I do. Oh, being a woman is so interesting, don't you find it? What are we, ladies? What are we? We are waitresses at the banquet of life. Get into that kitchen and rattle them pots and pans. And you better look pretty goddamn good doing it, too, or else you're gonna lose your good thing. Oh, and why do we do that? Why do we do that? I'll tell you why we do that. We do that to find love. Oh, I love to be in love. Don't you love to be in love? Ain't it just great to be in love? Oh, ain't it wonderful? Isn't it wonderful to be in love? Ain't it just grand laying there late at night in your bed waiting for your man to show up? And when he finally does, now about 4 o'clock in the morning, with whiskey on his breath and the smell of another woman on his person. Oh, honey, I can smell another woman at 500 paces. That's an easy one to catch. So what do you do when he comes home with the smell of another woman on him? Do you say, oh, honey, let me open up my loving arms and my loving legs. Dive right in, baby, the water is fine. Is that what you say, girls? Or do you say, pack your bags. I'm putting on my little waitress cap and my fancy high-heel shoes. I'm gonna go find me a real man, a good man, a true man. A man to love me for sure. You know, I'll tell you something. I actually thought I found myself one. I did. I thought I found myself one. When he held me in his arms. Share the world for the good thing I found. If she's bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if they put her down.
Ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue Ménage sur Radio Zone 93,8.
Bonjour, bonjour. Oui, c'est tout comme tous les mercredis. Nous nous retrouvons avec Romu Ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour à toutes celles qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent. Alors, ce programme de ce mercredi sous ce beau soleil, c'est vrai qu'on se sent plein d'entrain comme ça parce qu'on s'est pris un bon bol de soleil, une petite glace sur les quais avant d'arriver ici. Et alors, on vous propose pour aujourd'hui de réentendre une interview que nous avions fait avec. Que j'avais fait avec Brigitte Magnin dans le cadre de notre marathon au mois de mars. Interview qui nous avait paru tellement important et intéressant que nous avons eu envie de le faire écouter à toutes les femmes qui éventuellement ne l'auraient pas entendu à ce moment-là.
Et ensuite, notre petit quart d'heure musical, et cette fois ce sera en compagnie de Chiara Banchini et surtout de l'ensemble 415 qu'elle dirige. Alors bon, avant ça, un petit rock, hein, je crois que...
Allez, pour continuer à être dans l'ambiance de l'été.
Avec, j'en rêve la nuit. Ils sont ma mère, ma seule folie. Quand je les vois sous toutes leurs facettes, taillées en rose ou en navette, j'ai comme un frisson dans le dos. C'est mon point faible, c'est mon credo.
Peur du bonheur, peur de la noirceur, peur de mon cœur, ma sœur. Peur de l'ennui, peur du whisky, peur de l'énergie, peur de skipty, peur qu'on m'envie. Jalouse de la gourmande Denise, jalouse de la perverse Héloïse. Peur d'être belle, d'être rebelle, peur d'être réelle, peur d'être pucelle, peur d'être miel, peur d'être conquise, peur d'être soumise, peur de la maîtrise, peur de l'analyse, peur de la crise. Jalouse de la vibrante Marise, jalouse de la fière Marie-Louise. Peur de trop jouir, peur de pas jouir, peur de souffrir, peur de pas souffrir, peur d'en mourir.
Alors comme je vous le disais, nous avions avec Brigitte Magnien l'intention de parler de la peur. Cette peur qui peut prendre tous les aspects dont vous avez entendu, que vous avez entendu évoquer par Pauline Julien dans ce disque, cette chanson fameuse. Et finalement, nous, on s'est arrêté à la dernière de ces peurs, la peur de mourir. Et oui, qui n'a pas eu une fois peur de mourir dans toutes sortes de circonstances. Et nous avons surtout été intéressés par cette peur-là parce que, par l'intermédiaire de Brigitte, nous avons eu l'occasion de rencontrer une femme, Marie-Josée Burnier, qui, elle, a affronté à deux reprises de très très près la peur de mourir, dans des circonstances un peu particulières, puisqu'elle travaillait à l'époque comme infirmière dans le cadre du CICR. Mais les peurs qu'elle a eues, elle vous en parlera bien sûr, comme elle le dit, ce fut moins la peur de mourir, mais beaucoup plus la peur de souffrir. Parce que la peur de mourir, si parfois elle en a été menacée, c'était d'une mort très violente. Mais comme elle le dit, la mort violente, c'est très rapide. À la limite, j'en avais pas peur. Mais par contre, la peur de souffrir, auquel elle a aussi été confrontée et très fortement, eh bien ça, c'était très très important pour elle. Alors elle a bien voulu évoquer ces moments qui sont évidemment pas très simples et faciles à avoir vécu. Ces événements qu'elle a vécu il y a environ 2 ans, auquel vous verrez, il semblerait qu'elle ait beaucoup, beaucoup réfléchi. Bon, d'abord parce que lors du deuxième événement, elle a été hospitalisée pendant longtemps, elle a eu le temps d'y réfléchir. Puis pendant le premier, elle a été prisonnière pendant très longtemps, elle a aussi eu le temps d'y penser. Mais ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que la façon dont elle nous retransmet cette réflexion, qu'elle fait avec beaucoup de force et beaucoup d'émotion, et qui, je crois, est très frappante, et nous avons pensé qu'il valait la peine de retransmettre cette expérience à toutes sortes d'autres, parce que visiblement, elle aussi s'est appuyée sur des expériences d'autres pour se renforcer à son tour. Alors, comme je vous le disais, elle a vécu 2 missions qui lui ont posé des problèmes, une fois en Angola et l'autre fois au Mozambique.
Oui, je suis partie donc travailler avec le CICR en Angola et au Mozambique. L'Angola était ma 2e mission, et après 4 mois de travail dans le centre du pays, je suis tombée dans une embuscade avec un délégué et nous étions avec 4 véhicules de la Croix-Rouge. Et comme j'étais au bout de dans les derniers véhicules, j'ai été capturée par les soldats. Ça, c'était l'événement de l'Angola. Et au Mozambique, c'était 3 ans plus tard, lors d'une mission d'évaluation de la situation nutritionnelle. J'étais dans un petit avion avec seulement le pilote. On allait chercher des blessés parce qu'il y avait eu une attaque pendant la nuit dans une petite ville à une demi-heure de vol de la ville où nous avions la délégation. Et lorsque nous étions en train d'atterrir, la guérilla nous a tiré dessus et j'ai été blessée ainsi que le pilote. Ça, c'est les 2 événements que j'ai vécu.
Alors, à partir de ces événements-là, bon, on va peut-être commencer au tout début. Quand vous êtes parti, vous avez su que vous alliez partir pour la toute première fois en mission pour le CICR, où le CICR intervient toujours dans des pays en guerre, donc il y a cette idée que le risque existe permanent. Est-ce que vous aviez déjà eu peur avant de partir dans cette première mission, sachant que vous alliez travailler dans un pays en guerre?
Non, je crois que pour, et particulièrement pour des jeunes Suisses, c'est très difficile de se rendre compte de ce qu'est un pays en guerre. Et même si on nous raconte des événements, même le fait de lire des journaux, de regarder la télévision, où on voit souvent des images de pays en guerre, c'est pas la même chose de le vivre et de le voir de l'extérieur. Donc avant de partir, pour moi, c'était quelque chose de très abstrait. En fait, je ne m'imaginais pas du tout dans une situation de guerre. Mais j'avais l'impression que soit je supporterais bien dès le départ et alors je continuerai, ou alors que j'allais mal réagir et que bon, je rentrerai. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais eu l'occasion de réfléchir à la mort. Bon, en plus, je suis infirmière de métier. Donc j'avais déjà été confrontée à la mort d'autres personnes. Et lors d'un travail de diplôme à l'école d'infirmière, j'avais pas mal réfléchi sur la mort avec plusieurs collègues. Et je m'étais rendu compte que c'était quelque chose qui ne me faisait pas peur a priori, donc toujours subjectivement, sans l'avoir vécu. Et bon, je suis partie un peu avec cette idée. Mais c'était tout à fait sans expérience aucune. Bon, l'Angola, effectivement, a été très très violent, très dur, puisque je suis tombée dans une embuscade. À un moment donné, même je pensais être touchée par une balle, je pensais mourir. Ça a confirmé le fait que je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur de souffrir plus que de mourir. De souffrir ou de mourir à petit feu, ou je ne sais pas, avec beaucoup de souffrance. Mais la mort violente et brève ne me faisait pas peur. Et j'ai eu la chance, après avoir été enlevée, de vivre plutôt bien les 4 mois de captivité. Pour différentes raisons, notamment parce que j'ai eu un relativement bon contact avec mes ravisseurs, parce que bon, j'avais réussi à me faire un peu une philosophie. Je m'étais préparée à y rester très longtemps, je me préparais un petit peu chaque fois à des événements difficiles, si bien que quand je suis rentrée d'Angola, je l'ai pris plutôt pour une expérience positive. Ça m'a... Le fait d'avoir passé 4 mois aussi a fait comme une espèce de parenthèse dans ma vie où j'ai dû réfléchir à beaucoup de choses fondamentales que je n'avais jamais pris le temps d'aborder parce qu'on est pris dans la routine de la vie. Et là, tout d'un coup, je n'avais pas de livre, je n'avais rien, pas de contact avec l'extérieur, je n'avais rien à faire. Donc j'ai beaucoup réfléchi et donc cette expérience d'Angola pour moi a été positive. Si bien que quand je suis arrivée à Genève, ça a d'ailleurs beaucoup choqué ma famille, les journalistes m'ont demandé si je comptais repartir et j'ai dit oui. Parce que pour moi, c'était évident. Ce n'était pas du tout une expérience négative.
Et au moment où le mot Mozambique est sorti, donc vous saviez que vous alliez retrouver une situation plus ou moins semblable à celle de l'Angola, il n'y a pas eu peur à ce moment-là de se dire « je vais retomber dans une situation identique à celle de l'Angola avec un nouveau risque d'enlèvement ou avec plein d'autres risques en fait ?»
Non, bon, il s'était passé 3 ans. Entre-temps, j'avais fait une mission à Timor-Est qui s'était très très bien passée. Et à l'époque, quand on m'a demandé de partir au Mozambique, en fait, c'était pendant les vacances universitaires. J'avais commencé des études à l'Institut d'études du développement à Genève. Et bon, c'était une mission de 2 mois. Et j'avais pas tellement réfléchi au problème du danger. Mais quelque chose, quand même, juste avant le départ, n'allait pas très bien. Je ne savais pas pourquoi j'avais plus tellement envie de partir. Mais enfin, tout était organisé. C'était difficile. J'avais pas de raison de dire non. Et ça, en fait, m'est revenu après, quand j'étais à l'hôpital. Je me suis dit, c'est vrai, j'aurais dû m'écouter, je n'aurais pas dû partir. Mais c'est un sentiment aussi très, très subjectif et que je ne pouvais pas expliquer sur le moment, qui était plus ou moins inconscient, dont je me suis rendu compte un peu après. Alors, est-ce que je sentais quelque chose? J'en sais rien, je ne saurais jamais, sûrement, mais probablement, je suis partie avec un sentiment un peu de malaise. Mais en arrivant au Mozambique, non, je voyais plutôt mon travail. Le reste, j'y pensais pas tellement en fait.
Vous êtes déjà tombé dans une embuscade?
Ben, c'est vrai que ça ne nous arrive pas forcément tous les jours, hein, quand même.
Non, d'ailleurs, en tout cas, moi, je m'étais imaginé la chose complètement faussement. Hein, parce que je disais, il y a le camion, on vous arrête, puis vous descendez. Non, pas du tout. On n'arrête pas du tout tranquillement le camion. Il doit s'arrêter parce qu'on tire dessus. Et puis, on n'a surtout pas le temps de penser aux peurs qu'on a.
Bon, disons que dans une embuscade, on n'arrête pas le camion, on lui tire dessus. Donc... En fait, dans les deux cas, autant en Angola qu'au Mozambique, ça a été tellement... Enfin, je crois que bon, soit on s'attend à ce genre de situation et alors on ne part pas, parce que si on s'y attend trop, si on se l'imagine trop précisément, c'est insupportable.
Soit alors au moment où ça arrive, on ne s'attend vraiment pas. Et c'est, enfin, il faut quelques secondes pour se rendre compte des choses qui se passent. Et pendant l'embuscade, je dois dire que c'était... Peut-être c'est la déformation aussi de notre société où on voit tellement de films et des choses comme ça, mais j'avais l'impression d'être spectatrice d'un film qu'on aurait pu voir au cinéma. On était sur une petite route de campagne, il y avait des hautes herbes comme il y a beaucoup en Afrique, et tout d'un coup des soldats qui sortent de ces herbes en courant, des coups de feu, c'était vraiment irréel. Il m'a fallu quelques secondes pour me rendre compte de ce qui arrivait. Et bon, le chauffeur qui était avec moi a réussi à s'enfuir. Et moi, j'ai essayé de m'enfuir avec la voiture parce que j'avais l'impression que ça me protégeait relativement plus que de courir comme ça sur la route. Donc, j'ai essayé de reculer avec la voiture et à ce moment-là, les guerriers ont commencé à me tirer dessus. Excusez-moi. Et à ce moment-là, le pare-brise de mon véhicule a sauté, enfin, par les balles. Et j'ai eu beaucoup de sang sur le visage, en fait j'avais des coupures, et à ce moment-là je me suis dit, bon c'est fini, je ne peux plus rien faire, c'est fini. Et vraiment, mais j'ai pas eu, comme on parle souvent, qu'on revoit toute sa vie, ou qu'on revoit des choses comme ça, c'était au contraire une espèce de détachement, de me dire, bon ben voilà.
Mais c'est fini dans le sens, je vais mourir.
Oui, tout à fait, oui. Mais complètement détaché et absolument calme, enfin, ça j'ai jamais compris pourquoi. Et à ce moment-là, j'ai arrêté la voiture et les guerriers sont venus vers moi. Et là, à ce moment-là, je suis descendue du véhicule et j'étais absolument calme. Pour moi, c'était fini, il n'y avait plus rien à faire, j'allais mourir.
Mais oui, vous avez une attitude menaçante à ce moment-là, c'est-à-dire que ce n'est pas un enlèvement gentil. Ils ne vous ont pas proposé de vous soigner et de vous emmener. C'était quand même agressif à ce moment-là.
Non, bon, pas. Oui, bien sûr, un enlèvement est toujours agressif, mais. Non, la première chose qu'ils se sont inquiétés, c'est « Est-ce que vous êtes blessé ?» Et puis j'ai dit « Je ne sais pas, je crois que je vais mourir » ou « Je ne me souviens pas exactement ce que je leur ai dit. » Et après, ils m'ont dit « Mais il faut que tu viennes avec nous. » Et j'ai commencé à parlementer avec eux parce qu'il me semblait que c'était une erreur de leur part. Enfin, on travaillait dans cette zone depuis quelques mois et il semblait qu'on n'avait pas de problème avec la guérilla. Donc pour moi, c'était une erreur et j'avais l'impression que si je partais avec eux, ça allait compliquer la situation, etc. Donc j'essayais de discuter avec eux. Mais de manière tout à fait calme. Bon, la peur que j'avais, c'est qu'il y avait des coups de feu qui s'échangeaient. Et à un moment donné, je me souviens, on s'est tous jetés à plat ventre. Alors ils m'ont dit, non, relève-toi, viens avec nous. Et après, je suis partie avec eux. Mais disons que ça se passe très, très vite. Et je vous dis, c'est un peu irréel. On se sent ni acteur à la fois, mais presque spectateur. Enfin, et vraiment, c'est un moment dont je me souviens très, très, très bien. Mais où je me souviens avoir été très très calme. Il y a aussi une chose, c'est qu'au moment où je suis descendue de la voiture, je me suis dit, bon, les guerriers étaient très énervés, ils étaient en pleine attaque en fait, et je me suis dit, il ne faut surtout pas montrer de la faiblesse, surtout pas pleurer, ou comme ça, parce qu'ils vont s'énerver. Et peut-être que c'est ça qui m'a aidée à garder mon calme, je ne sais pas.
Alors bon, là, il y a le moment d'enlèvement, et puis après, bon, il y a une marche qui va durer pendant 4 mois. Alors là, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent dans la tête. Bon, d'abord, il y a l'environnement qui doit aussi inquiéter pas mal, l'attitude des guerriers autour de vous. Et puis, je ne sais pas, par exemple, des survols de l'aviation, de l'armée, enfin plein d'événements extérieurs qui peuvent influencer sur le comportement. Alors là, si on peut...
Puis aussi, peut-être, vous ne saviez pas ce qu'ils allaient faire de vous. Enfin, je ne sais pas si vous l'ont dit, mais si à un moment donné, vous dites, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi.
Donc oui, ce qui a été le plus dur les premières heures, c'est que... Bon, d'abord, je ne savais pas très bien qui ils étaient, parce que dans ces pays, très souvent, les soldats n'ont pas les uniformes complets, donc c'est un peu mélangé, il y a toutes sortes de couleurs et autres, donc on n'est jamais sûr à qui on a affaire. Et puis, il faut bien vous imaginer qu'après cet enlèvement, nous sommes partis, donc j'étais seule avec, parce que les autres personnes donc, du convoi avaient pu s'échapper, donc j'étais seule avec une quarantaine de guerrieros. Et nous avons marché, donc ça s'est passé vers 9h30 du matin, et nous avons marché jusqu'à la nuit, je ne sais pas à quelle heure c'était, je pense vers 10h du soir, dans la forêt. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça a été un des moments les plus durs, moins intense, parce que c'était plus long dans le temps, mais toute cette journée-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi et où est-ce qu'ils m'amènent? Et j'ai demandé au responsable, et il m'a dit, on va t'amener dans notre camp. Et moi, je me suis dit, ça y est, je vais me retrouver ce soir dans un camp où il y aura, je ne sais pas combien de centaines de soldats, ça va être horrible, peut-être qu'ils vont me torturer. Enfin, vraiment, et là, je me suis préparée vraiment au pire. Je me suis dit, bon,
si, quoi qu'il arrive, je veux pas, je sais pas, j'ai repensé à des expériences de gens qui ont été marqués après pour toute leur vie. Et je me suis dit, je veux, si je m'en sors, je veux pas traîner ça toute ma vie. Je veux pas que ça me marque à ce point-là. Et je me suis dit, si ça m'arrive, j'essaierai de me détacher et que ce soit pas moi qui soit touchée. Et vraiment, je me suis préparée au pire et en fait, ça s'est très bien passé parce qu'on est d'abord, les soldats ont été très très gentils, ils n'ont absolument, ils n'ont pas du tout été brutaux, même très respectueux. Et on est arrivé dans leur camp qui était en fait un village dans la brousse et tout le monde a été extrêmement gentil, on m'a donné une petite case pour moi, on m'a vraiment soignée, choyée je dirais même. Donc là, ça a mieux été. Bon, le lendemain, j'ai eu très peur à un moment donné parce que je me suis retrouvée face à tous les gens du village. Et bon, on ne m'avait pas dit ce que c'était. Il y a eu un discours un peu politique assez violent où on attaquait aussi la Croix-Rouge et notre action, etc. Et je me suis dit, bon, tout d'un coup, je me suis dit, ils vont faire un espèce de procès ou je ne sais pas quoi. Enfin, je repensais à des tas d'histoires dont j'avais lu le compte-rendu dans les journaux. Et là, j'ai recommencé à avoir peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Puis bon, petit à petit, les jours passant, je me suis rendu compte que je pouvais leur faire confiance. Et à un moment donné... je me suis dit, bon, maintenant je choisis mon camp. Ça s'est passé dans une zone où nous devions traverser une zone en fait très stratégique qui était tenue par l'armée gouvernementale. Et à cet endroit-là, je savais que si on tombait dans une embuscade de l'armée gouvernementale, ça serait vraiment très très violent. Donc je me suis dit, moi, il faut que je choisisse mon camp. Parce qu'au moment où on tombe dans l'embuscade, il faut que je sache de quel côté je pars. Et comme je connaissais déjà la guérilla depuis quelques jours, je m'étais rendu compte qu'ils me traitaient bien. Je ne savais pas très bien pourquoi, mais enfin, ils avaient l'air plutôt positifs avec moi. Je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, je reste avec eux. J'avais choisi leur camp et je leur fais confiance parce que je les connais. L'armée gouvernementale, il n'y avait pas beaucoup de discipline, ils ne me connaissent pas, ça me faisait très peur. Donc à partir de là, je leur ai fait confiance et ça, je n'ai plus eu peur. À part des moments bon, justement, où il y a un hélicoptère qui nous a survolé, on a dû se cacher. Mais c'était des peurs disons, que je partageais avec les autres. C'était plus cette peur, moi toute seule face à eux. Donc c'était un peu différent. Et puis, il y a eu encore une peur à la fin. C'est-à-dire qu'après avoir marché 35 jours donc jusqu'au sud de l'Angola, je suis restée dans un camp de prisonniers. Mais bon, c'est un mot vraiment un peu dur. Ce serait plutôt un village en brousse. Et à un moment donné... Des militaires haut gradés sont venus vers moi pour me faire pression pour que je parle en leur faveur à la presse. Et à ce moment-là, ça a été très dur parce que je me suis rendu compte que malgré toute leur gentillesse, j'étais quand même dans leurs mains et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de moi. Et il y a eu des menaces, bon, pas physiques, mais des menaces psychologiques. On m'a dit qu'il fallait que suivant ce que j'allais dire et tout, on en verrait quand je serais libérée. Et à ce moment-là, j'ai eu peur parce qu'on m'a préparé à peu près pendant une demi-journée. On a eu des entretiens et tout ça où je me suis défendue. Et à un moment donné, ils m'ont dit, moi, vous réfléchissez et puis votre sort, on verra ce qu'on va faire. Puis un peu plus tard, il y a un groupe de 6 soldats armés qui est arrivé dans ma case et ils m'ont dit, on vient te chercher. Puis j'ai dit, mais on va où? Ils m'ont dit, on va faire une promenade. Puis là, je me suis dit, bon, c'est fini, ils vont m'exécuter parce qu'ils voient que je ne vais pas collaborer. Et là, de nouveau... Je ne sais pas pourquoi, parce que ça allait être de nouveau une mort brève, violente, mais brève. Je me suis dit, bon, tant pis, c'est fini, qu'est-ce que je peux faire de toute façon. Et je me suis dit surtout, j'ai toujours cette peur de surtout pas perdre sa dignité et toujours rester de sang-froid.
Vous êtes toujours sur Radio Zone Remue Ménage 93,8 et vous écoutez Marie-Josée Burnier du CICR. Et tout de suite, Jeanne Masse.
Si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier, et j'aurais soigné ma peau, laissée par les froids. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en ça. J'ai prononcé tant de noms. chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manque d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir. J'aurais su vous pardonner. Je serais mon seul à présent. Somnambule, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuent. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève.
Donc d'écouter Jeanne Mas, Le Rouge et le Noir. Et puis juste avant, bon, donc on a entendu cette aventure en Angola qui est vraiment pas triste. Là, elle a connu des sacrées peurs. Mais le pire, c'est que c'était pas terminé. Et une autre aventure tout aussi douloureuse et effrayante l'attendait.
L'attendait au Mozambique. Au Mozambique, qui bien sûr est en guerre comme l'Angola l'est. Et quand, comme elle, on doit souvent prendre un avion et survoler des zones de combat où il y a des zones rebelles, eh bien, on peut s'imaginer que le simple fait de monter dans l'avion, ça donne déjà de sacrées peurs.
Bon, bien sûr qu'on y pense, mais c'est assez bizarre parce qu'en fait, ma peur au Mozambique était plutôt quand on atterrissait. C'est-à-dire, au moment où on atterrissait, c'était très souvent des champs, en fait, un champ qui avait été fauché et qui était bien entendu entouré de buissons ou de hautes herbes. Et j'avais toujours l'impression, quand on atterrissait, que des guerriers allaient sortir des hautes herbes. En fait, parce que je le reliais à ce que j'avais vécu en Angola. Et en Angola, en fait, j'avais jamais pensé à une embuscade, mais on avait très peur des mines. Donc chaque fois, en fait, on projette sa peur sur quelque chose de particulier, puis c'est en général pas comme ça que ça se passe, apparemment. Et au Mozambique, vraiment, en l'air, non, je pensais pas tellement. Parce qu'on volait très haut, c'est-à-dire qu'on décollait et on montait très rapidement à haute altitude pour éviter les coups. Donc, en fait, le risque était plus au moment où on atterrissait. Mais une fois qu'on était en vol, il y avait quand même peu de risques.
Et c'est bien comme ça que ça s'est passé. Effectivement, on vous a tiré dessus au moment où vous étiez en train d'atterrir.
Oui, exactement.
Alors là, bon, l'avion, tout comme la voiture, ben, de nouveau, on tire dessus.
Oui, de nouveau, c'est la même chose. Sur le moment, il y a eu un bruit bizarre. On avait l'impression qu'il y avait du gravier dans l'hélice de l'avion. Et il a fallu quelques secondes, enfin peut-être pas autant, je ne sais pas. Après, ça paraît assez long pour se rendre compte qu'on nous tirait dessus. Et surtout, tout d'un coup, moi j'étais en jambes nues, j'étais en jupe, j'ai vu mes blessures s'ouvrir, enfin mes jambes s'ouvrir. Et là, mais je vous dis, c'est aussi fou parce que on voit ça, puis il semble qu'on est spectateur de ce qui se passe, on se sent pas tellement là-dedans, c'est irréel et ça se passe très vite, puis à la fois c'est très lent et on dirait que le temps s'arrête. C'est une impression vraiment particulière. Et bon, à ce moment-là, l'avion est remonté, donc dès qu'on s'est rendu compte qu'on nous tirait dessus, mais bon, le pilote était blessé, moi j'étais blessée, Et le pilote était un très jeune homme qui travaillait pour la première fois dans un pays en guerre. Et quand il a vu mes blessures, parce que la sienne, c'était au bras, au début on l'a pas vu tout de suite, et il a paniqué. Enfin, quand il a vu mes blessures, je me suis dit, bon, il va tomber dans les pommes, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire, moi?
Bon, parce que vous étiez que les deux dans la cabine.
On n'était que les deux, oui, c'était un petit avion de 6 places, on n'était que les deux. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus bouger son bras, il était paralysé, son bras droit, et que ça saignait beaucoup. Et moi, j'étais assise à sa droite, donc je lui ai pris le bras, j'ai fait garrot sur sa blessure pour qu'il arrête de saigner, et je l'ai cramponné comme ça, et je lui ai dit, maintenant, il faut qu'on tienne le coup. On avait une demi-heure de vol à faire pour retrouver notre délégation, puis atterrir dans des conditions de sécurité. Et à ce moment-là, pour moi, c'était le plus important, c'était qu'on arrive là-bas et que le pilote ne panique pas. Parce que s'il paniquait, c'était fini. J'aurais pu probablement tenir l'avion en vol, mais j'étais incapable d'atterrir. Et en fait, ça m'a aidé, c'est de tenir ce bras, et je me suis crispée sur son bras comme ça. Ça m'a aidé à la fois moi-même à pas m'évanouir, parce qu'à un moment, bon, au bout d'un moment, enfin, c'était horrible, je me disais, mais pourquoi de nouveau moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, c'était de nouveau, ça paraissait irréel. Et je sentais le sang qui coulait, enfin, je ne savais pas très bien quelle blessure j'avais encore. Puis je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Et cette demi-heure a été extrêmement longue. Mais avec toujours cette pensée qu'il faut tenir. Là, c'est plus la peur, c'est l'instinct de survie, je crois simplement.
À ce moment-là, la peur, donc, elle a eu effet sur vous de, en fait, quelque sorte, décupler l'énergie et pas du tout de vous paralyser, quoi.
C'est, ouais,
on a tout à coup une force surhumaine, enfin, de résister à la douleur, à la peur. Qui
ben, la douleur, il n'y avait pas grand-chose. Je vous dis, c'est vraiment très bizarre. Au départ, peut-être que ça fait déjà mal, mais on allait se préoccuper par tellement, justement, par survivre ou par tellement d'autres choses que c'est pas ça qui frappe. Enfin, c'est pas vraiment douloureux.
Et comme vous disiez, la peur de l'autre, qui apparemment était très grande à ce moment-là, au point de faire perdre les pédales, ça a décuplé la vôtre,
ah oui.
En disant je dois compenser la sienne.
Ah oui. Non, puis c'était pour ma survie aussi, parce que je me rendais compte que si il pouvait plus piloter, l'avion tombait et c'était fini. Donc on n'avait vraiment pas le choix. Et en fait, après, en arrivant au-dessus de l'aéroport, bon, comme le pilote n'arrivait plus à bouger son bras droit, il m'a dit, il faut que tu m'aides à faire les manœuvres d'atterrissage, parce que c'est un avion qui a une partie des appareils entre les deux sièges presque. Et à ce moment-là, bon, j'ai pas eu peur, enfin, c'était la continuation de ce qui venait de se passer, et il m'a dit ce qu'il fallait faire, je l'ai fait, on atterrit comme ça, et voilà.
Un rapprochement entre cette personne et vous à cause de la peur partagée?
Non, ça c'est quelque chose aussi qui est très étrange. J'avais l'impression que des événements de ce type, comme ceux de l'Angola par exemple, devaient beaucoup rapprocher les gens. Puis je me suis rendu compte que, bon, peut-être que si c'est quelqu'un avec qui on est très proche au départ et qu'on vit une situation comme ça, probablement que ça rapproche encore les liens. Mais dans les deux cas, que ce soit l'Angola ou le Mozambique, j'ai pas eu des liens particulièrement proches avec ces personnes. Ça m'a beaucoup frappé en Angola parce que j'ai vécu en fait 2 mois avec des autres prisonniers et j'ai l'impression qu'il devait y avoir une solidarité, enfin une espèce d'atmosphère très particulière. Et pas du tout. Pas du tout, au contraire, il y avait des disputes. Bon, puis des fois même on s'ignorait alors qu'on vivait tout près les uns des autres. Bon, on essayait de vivre dans une bonne atmosphère, on y arrivait la plupart du temps, mais ça n'a pas créé des liens forts comme je le pensais. Et avec le pilote non plus, bon, c'est très peu vu après parce que j'ai été évacuée, mais il a passé en Suisse une année et demie après. On s'est revus et tout, mais je sais pas, c'était, ça m'a pas fait plus d'impression que si j'avais vu un délégué avec qui j'avais travaillé. Ou il s'est pas créé quelque chose de particulier.
Et puis là, à ce moment où, quand vous êtes rentré en Suisse, donc vous êtes à l'hôpital, est-ce qu'il y a encore des craintes à ce moment-là? Parce que bon, ben, vous êtes blessé, la douleur est quand même assez est très intense, elle est présente tout le temps. Est-ce qu'il y a une peur, par exemple, de se dire « je vais rester handicapé » ou un sentiment de cette sorte?
Bon, quand je suis arrivée en Suisse, en fait, j'avais des douleurs extrêmement fortes qui ont duré plus de 5 mois. Et je crois que la douleur, en fait, a submergé la peur. Enfin, je me souviens pas d'avoir eu peur, mais tellement mal tout le temps que finalement, il n'y avait plus que ça qui occupait ma vie. C'était la douleur. Et quand elle a commencé à diminuer, c'était cette volonté de vouloir s'en sortir. Mais j'ai plus de peur.
Oh.